Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
Sans oui. Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité, Paul Pogba.
À droite, Pauleta qui est parti. Dorasso va frapper. La frappe de Dorasso.
Oh là là. Incroyable but de Lucas Dorasso. C'est incroyable.
Mahrez qui échappe au tacle de Tamendi. Mahrez face à De Michelis. Mahrez.
Et l'arrêt de Brissamba. Les mains, les gants de fer de Brissamba à la muraille.
Payet, frappe du pied gauche.
Oh, l'étincelle, oh la foudre. 89e minute, l'homme du match.
Bon, bien joué.
Hello les amis, générique un peu plus long que d'habitude avec un échantillon des hackmen du cru qui ont fait rêver la planète foot et les Havrais. Vous l'aurez peut-être compris, débrief spécial formation aujourd'hui avec deux invités à notre micro. Jair Karam, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pris les rênes du centre de formation du hack au pied levé à l'automne dernier. Vous êtes aussi l'entraîneur de la réserve à vos côtés, quelqu'un qu'on aurait pu entendre d'ailleurs dans ce medley des buts il y a quelques secondes. Bonjour Anthony Le Talec.
Bonjour.
Faut-il encore vous présenter, ancien joueur du hack, brillant à Liverpool, vainqueur de la Coupe de France avec Sochaux et de retour au centre de formation du hack depuis deux ans. On vous interrogera sur ce nouveau rôle d'entraîneur à mes côtés. Comme d'habitude, Mathieu Billot de Foot Normand et Luc Gallet du Courrier Cauchois. Bonjour.
Salut. Moi j'ai pas remporté la Coupe de France malheureusement.
Moi non plus, mais bonjour à tous quand même.
Et on évoquera bien sûr en fin d'émission les pros et ce match capital face à Nantes qui nous attend. C'est parti pour le débrief 100% hack, épisode 12.
Vous savez, les formateurs, on a ce travail de l'ombre et on veut y rester. Nous, notre petit plaisir, je leur dis souvent, c'est lorsqu'on va au match, autour d'un petit verre, c'est de voir ces jeunes qu'on a pu voir entre nos mains s'épanouir dans leur métier. C'est grâce aussi aux éducateurs qui travaillent à la CAV, puisqu'on a des garçons entraîneurs qui sont issus du CRU et qui sont également ici depuis un certain nombre d'années. C'est aussi une forme de force de ce club.
Et on garde la boîte à archives ouverte. François Rodriguez dans le débrief 100% avec votre prédécesseur en tant que directeur du centre de formation du HAC, Jair. Centre de formation mythique, je crois qu'on peut le dire, 40 ans d'existence, classé deuxième meilleur centre de France il y a quelques années derrière l'OL et le PSG. Vous en êtes donc le patron depuis le départ surprise de François Rodriguez vers l'Arabie Saoudite. Grosse responsabilité, on imagine, de reprendre ses rênes au pied levé.
Oui, enfin bon, grosse responsabilité, certes, au regard de l'historique de ce centre. Après, j'ai la chance quand même d'avoir un vécu qui m'a permis d'avoir des fonctions de manager. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet en tout cas d'assurer cette mission intérimaire. Et puis, il faut pas quand même rendre hommage aussi à François, qui est resté quand même 6 ans. C'est quand même beaucoup, 6 ans. Et qui a quand même aussi fait du bon travail et puis qui nous a laissé cet héritage derrière.
Est-ce que vous-même, vous avez été surpris justement de ce départ un peu précipité en tout début de saison?
Bah oui, parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Ça s'est fait au pied levé sur le déplacement à Saint-Etienne, sans rien vous mentir. François m'informait de son départ. Il a eu une belle opportunité, parce que c'est une belle expérience aussi à vivre pour lui, dans son évolution de carrière.
Aux côtés d'Hervé Renard.
Exactement. Donc, quand l'information m'a été transmise, donc savoir si ça m'intéressait, et puis c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Mathieu,
est-ce que on peut revenir un petit peu sur votre rôle? Ça consiste en quoi d'être directeur de centre? Parce qu'on parle beaucoup de la partie terrain quand on est coach, on y reviendra un peu après. Mais sur la partie justement purement directeur, ça consiste en quoi exactement?
Ben, vous avez une fonction surtout de management. Vous devez coordonner l'ensemble des services qui sont au service de ces jeunes. Je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même de réussir à former des joueurs professionnels. Au-delà d'en faire des joueurs professionnels, on a quand même des adolescents qui vont devenir demain des hommes. Et donc, on a tout un nombre de services, que ce soit le médical, la scolarité, l'intendance, l'administratif, et sans oublier que certains, en tout cas, qui tournent autour du quotidien de ces garçons. Et mon rôle aujourd'hui, c'est faire en sorte que tout fonctionne pour le mieux en manageant tout le monde.
Et tout en entraînant aussi l'équipe réserve. Vous étiez d'ailleurs arrivé pour ça en 2022. Vous avez basculé avec l'U19 avant de revenir avec la réserve. Ça aussi, c'est un paramètre forcément important de, d'être aussi à la fois manager du centre de formation, mais aussi du, d'une équipe, de l'équipe réserve en l'occurrence.
Ouais, tout est une question d'organisation. Après, il faut aussi reconnaître que j'ai de bons collaborateurs, des personnes qui sont compétentes et aussi des personnes qui sont travailleuses. Donc, l'objectif, c'est de retrouver une bonne organisation qui permet de gérer les deux et puis surtout qu'on arrive à avoir une confiance générale entre nous pour avoir une dynamique qui soit assurée.
Et donc, parmi ces collaborateurs, il y a
Anthony.
Monsieur Le Talec, hein, Anthony, parce que parmi les casquettes que vous avez aujourd'hui au sein de la structure du HAC, donc il y a entraîneur adjoint de l'équipe réserve, du coup, fonction que vous aviez déjà la saison dernière avec François, du coup, et aussi une casquette d'entraîneur spécifique des attaquants du centre de formation de toutes les catégories qui s'ajoute. C'est quelque chose qui se développe pas mal, hein, maintenant dans les clubs. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot justement de cette casquette un peu plus particulière de spécifique attaquant?
Ouais, c'est une casquette que j'aime tout particulièrement. Voilà, ancien joueur, attaquant, et moi j'ai passé mon diplôme pour ça.
Ouais, maintenant c'est comme l'entraîneur des gardiens.
Exactement.
Il y a un diplôme spécifique maintenant pour ce spé attaquant.
Ouais, exactement, depuis 4 ans. Moi j'ai enchaîné les diplômes, hein, après la fin de ma carrière, j'ai passé le BEF, après j'ai enchaîné avec le CEAD spécifique attaquant, et l'année dernière le DES pour entraîner jusqu'en National 2. Donc j'ai enchaîné 3 ans de formation. Là aujourd'hui, voilà, j'ai une petite coupure parce que
tu poses au diplôme cette saison.
Ouais, parce que franchement c'était très dur. C'était très dur d'enchaîner la carrière de foot après avec les diplômes. Mais je me suis bien sorti. Je les ai eu à chaque fois. Moi bon, j'étais bien aidé aussi. Hein. Mais voilà, pour revenir sur la partie des attaquants, moi c'est quelque chose que j'aime. Hein. J'adore d'accompagner les attaquants du club, des U16 jusqu'à la réserve. J'ai fait aussi 2 fois chez les pros. Et voilà, j'espère continuer dans ce chemin-là.
On parlait, vous faites partie des anciens de ce club un petit peu qui revient, c'est un peu ses premiers amours. On en parle un petit peu. Est-ce que vous estimez que c'est important? On pourra aussi poser la question à Jair, d'avoir comme ça des anciens joueurs. Alors, en plus, là, vraiment formés au club et qui sont devenus professionnels dans ce club-là. Est-ce que c'est important pour essayer de perpétuer une sorte d'état d'esprit cave et verte? Est-ce que ça peut avoir un rôle?
Pour moi, ça me paraît très, très important. Voilà, moi, j'ai joué de débutant jusqu'en pro dans ce club. Je l'ai dans ma peau, ce club. Et je pense qu'il est important d'avoir des anciens joueurs au centre de formation parce que il faut montrer quand même l'identité havraise, l'ADN. Voilà, c'est un club particulier, c'est le club doyen, et je trouve que je suis quand même tout seul en formation, au centre de formation par rapport à ça. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Ouais, dans quelques années, vous serez plus le seul ancien joueur et de la formation. Jair, est-ce que c'est important? Alors vous avez un profil totalement différent, vous avez pas mal roulé votre bosse, comme on dit. Hein. On rappelle que vous venez de Guyane. Hein. Vous avez été sélectionneur même de l'équipe de Guyane. Vous aviez même participé à la Gold Cup, hein, si je me trompe pas.
On est la Guyane pour la première fois à la Gold Cup.
Voilà, donc la Gold Cup, hein, c'est l'euro pour les nations d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Donc c'est loin d'être n'importe quoi. Une expérience aussi de coach dans une équipe de N2, si je me trompe.
Entraîneur N3 et N2.
Ouais, donc voilà, pas mal d'expériences différentes. Là, maintenant que vous avez ce regard de directeur de centre, d'éducateur, est-ce que c'est bien aussi d'avoir des profils un petit peu comme Anthony qui peuvent servir un peu de modèle à suivre pour vous parliez des jeunes joueurs qui vont devenir des hommes d'ici quelques temps? Est-ce que c'est important d'avoir des modèles comme Anthony?
Oui, c'est important puisque aujourd'hui, le Havre, c'est quand même un club qui a une histoire très atypique, club doyen en plus. Donc, c'est important d'avoir des anciens pros pour transmettre un certain nombre de messages. Et puis, il y a aussi cet ADN qu'il faut entretenir. Et je pense que, comme ça se fait dans beaucoup de clubs étrangers, on a souvent un maillage entre un ancien joueur professionnel et quelqu'un qui a un autre cursus, un peu plus universitaire ou autre. Ça se fait beaucoup d'ailleurs au Portugal. Et je pense que c'est un bon maillage de réussir à faire les deux, puisqu'il y a des codes de vestiaire, de vestiaire lié au haut niveau, que ces garçons sont capables de passer, de transmettre.
Ouais, et puis en plus, avec Anthony, c'est la particularité que c'est un jeune retraité, entre guillemets, du foot. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus... voilà, on dit souvent, le foot, il a changé, mais il a peut-être pas tellement changé depuis le moment où vous avez raccroché le crampon et ce que peuvent connaître les jeunes aujourd'hui.
Non, il a pas totalement changé, mais c'est vrai que les générations, ça a beaucoup changé par rapport à ça. Je suis un peu surpris des fois de leur mentalité. C'était pas comme ça, nous, avant, à l'époque. Mais nous, on doit s'adapter à eux. C'est ce qu'on dit au quotidien. à nous nous adapter aussi, de fixer un cadre, bien évidemment, mais on doit s'adapter quand même à ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Et voilà, maintenant avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est pas évident à gérer tout ça. Mais voilà, ça fait partie du métier maintenant.
Les réseaux sociaux, les agents aussi, pour des joueurs de, peut-être de plus en plus jeunes. Enfin, je sais pas si. Je
crois que, ça a toujours
on peut
existé.
On ne peut pas vraiment employer ce mot. Hein. Je crois que c'est pas autorisé, c'est ça pour certaines catégories.
Ça a toujours existé, les agents, les parents autour des joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même colossal. Mais on les voit même aux entraînements. Donc, voilà, ça fait partie du milieu, du métier. Mais en général, tout se passe bien.
Est-ce que justement, Anthony, de jeunes joueurs viennent vous demander des conseils, vous poser des questions un peu sur comment vous avez vécu votre début de carrière, par exemple? Est-ce que vous leur prodiguez un petit peu certains conseils ou pas?
Oui, bien sûr. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça au club. C'est pour ça qu'ils m'ont fait signer aussi. Mais pour être honnête avec vous, les joueurs aujourd'hui... ne pose pas trop de questions. C'est plus moi qui viens vers eux, parce que ils sont pas trop à la demande. C'est très rare. C'est très rare quand on échange, mais quand on échange, c'est quand par exemple on fait un transport, par exemple. Voilà, je parle de quelques anecdotes de mon vécu, mais je suis surpris par rapport à ça qu'ils sont pas trop à la demande. C'est plus vers moi qui va.
C'est vous qui va être le premier pas, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
D'accord. Bah, rassurez-nous quand même. Ils sont au courant que vous avez gagné la Ligue des Champions, quand même.
Oui, heureusement qu'il y a Internet aujourd'hui.
Ah, c'était pareil. Ouais, ok, c'était il y a quelques années, ouais. Je l'accorde, mais quand même. C'est.
Mais ça aide beaucoup. Ma carrière, mon histoire avec le club, ça m'aide à transmettre plein de choses. Et. Voilà, je gagne du temps, je dirais, par rapport aux autres.
Ouais, mais ça doit être l'éducateur qui doit être force de proposition, si je comprends bien, ouais. Pour aller vers le jeune.
Ouais, c'est ça.
Plutôt que le jeune n'a pas forcément cette curiosité, ou alors peut-être une timidité, hein, je ne les connais pas, mais d'aller dire, tiens, comment ça se passait, vous, entre guillemets, à votre époque.
Je ne veux pas dire qu'ils sont timides, mais je trouve que la nouvelle génération, c'est comme ma fille, j'ai une fille de 16 ans.
Donc bien placé pour ça.
Je suis très bien placé
pour en parler du coup.
Et il y a pas beaucoup de questions quoi. D'accord. sur le passé. Mais parce que moi à l'époque, moi si j'avais quelqu'un à mes côtés, je pense que j'aurais posé énormément de questions. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, peut-être que voilà, avec les réseaux sociaux, Internet aujourd'hui, peut-être qu'ils ont pas besoin. Ils ont tout à dispo. Peut-être.
Ouais. Ben je faisais référence à la victoire en Ligue des Champions du coup avec Liverpool. C'est un club que vous avez rejoint très jeune. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être que ça paraît plus classique de partir à l'étranger et tout, quand vous l'avez fait avec Florence Ina Pongol, c'était beaucoup moins quand même beaucoup moins répandu, mais on pourrait justement, les jeunes pourraient vous demander tiens comment ça s'est passé, comment ça s'est fait. En plus ça s'est fait à l'époque, je veux dire en bonne intelligence, il y a eu un transfert, hein, c'est pas vous êtes parti en disant au revoir, je m'en vais.
Ouais, c'était même un partenariat entre les deux clubs.
Voilà, donc c'était vraiment fait en bonne intelligence. Les jeunes justement pourraient vous dire tiens comment ça s'est passé, entre guillemets, vous éducateur, vous êtes parti tôt dans un grand grand club européen, peut-être l'un des plus grands, pourrait se diriger vers vous pour ça.
Mais en fait nous on était les premiers à partir à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui on parle que de ça. J'ai fait une carrière de 20 ans, mais on va me parler que de ce passage là à Liverpool, ça a vraiment marqué les gens. Et même les petits,
pour vous dire, c'est pas n'importe quel club quand même.
Ouais, bien sûr. Mais même les petits aujourd'hui quand ils me parlent ils font référence à Liverpool.
Ouais.
Et c'est un exemple particulier parce que je suis parti très très jeune à l'étranger et je serais pas de bon conseil de leur dire de partir à l'étranger maintenant. Moi j'étais prêt à l'époque parce que j'avais validé toutes les catégories. J'étais
parce que vous étiez titulaire en Ligue 1 avec votre club formateur.
Voilà. Mmh. Et j'étais surclassé dans toutes les catégories. Après j'ai fait toutes les équipes de France. J'ai joué avec les pros. On est monté en Ligue 1. Et après il y a eu ce transfert.
Oui. Donc vous êtes peut-être vous n'êtes pas forcément le chemin à suivre. Vous êtes peut-être une exception par rapport. Tous les jeunes ne sont pas pros et en
voilà,
capacité
c'est
de jouer
ça.
En Ligue 1 à
18 ans. Chaque cas est différent en fait. C'est ce que je leur dis. Faut pas suivre ma voie en particulier. Je pense que voilà, c'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois.
Je crois qu'on n'a pas redonné de chiffres, c'est 450 jeunes à peu près, hein, en comptant filles et garçons pour ce centre de formation.
C'est ça, oui.
Avec toujours une double jambe, entre guillemets, sportive et scolaire, ça c'est très important aussi. Alors c'est moins votre domaine, j'imagine, Anthony. Vous êtes plus sur l'aspect sportif, mais
il vient de dire qu'il a validé tous ses diplômes depuis qu'il a arrêté. Hein. Je trouve ça un peu petit. Anthony, faut pas se laisser faire comme ça. Faut y aller direct. Hein.
Non mais je sais qu'il y en a au sein du centre qui sont, voilà, les je sais pas comment dire, les nounous. Est-ce que c'est le bon mot ou la nounou des joueurs pour voilà faire en sorte que leur rappeler que l'école c'est important.
Ah, c'est un combat parce que aujourd'hui une carrière ça peut très vite basculer. Ils sont obnubilés, ce qui est normal, hein, sur leur rêve, leur envie de devenir footballeur professionnel. Mais nous, on doit continuer à garder le cap sur ce double projet, parce qu'on le sait très bien qu'il y aura un après-carrière. En moyenne, une carrière d'un footballeur, ça dure entre 6 et 8 ans. Et donc, on doit les préparer à ça, parce que demain, ben, la vie, elle continuera. La vie de sportif s'arrêtera, mais la vie d'homme, elle continuera. Mais c'est pas facile, parce que c'est un véritable combat pour pouvoir les maintenir en flux, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aillent à l'école, de les garder motivés. Et puis, ils sont des adolescents, comme on leur dit, différents des autres, parce que sportivement, il y a des objectifs à atteindre. C'est pas facile tous les jours, puisqu'ils se font, entre guillemets, une concurrence où ben, il y en a très peu qui passent. Mais il faut aussi être bon, comme le font certains, sur l'aspect scolaire.
C'est pour ça que la cérémonie des majors du HAC, c'est important, tous les ans, de récompenser, je crois que c'est ça, hein, le
c'est
nom
ça,
de cette
ouais.
cérémonie, de récompenser ouais. aussi ceux qui cartonnent sur différents aspects, que ce soit le terrain.
Oui, ouais, parce qu'on a des garçons, alors généralement, on a cette image de footballeur peu réfléchi, mais on a des garçons qui sont brillants, on a des garçons qui tournent en terminale à 17-18 de moyenne générale, avec des journées qui sont quand même bien remplies. Et cette soirée des majors, oui, elle a pour objectif de valoriser ceux qui arrivent à être bons sur la partie footballistique, bons sur la partie scolaire, et puis aussi qu'un comportement qui soit correct dans le quotidien. Donc c'est une cérémonie qui nous tient à cœur, et donc c'est ce qui va arriver très vite, en tout cas d'ici le mois d'avril.
Ça ressemble à quoi le quotidien d'un jeune qui est en centre de formation aujourd'hui? Alors ça doit dépendre évidemment des âges, j'imagine que l'entraînement prend de plus en plus de place peut-être. Vous disiez les journées sont longues.
Oui, bah en moyenne, pour vous donner, il tourne entre 8 à 10 heures d'entraînement par semaine, avec un volume scolaire qui tourne entre 20 et 22 heures. Donc ça fait des journées bien remplies qui commencent. Alors cette année, exceptionnellement, on s'entraîne à 8 heures. Ils enchaînent derrière la scolarité jusqu'à 17-18 heures pour après avoir des cours de soutien et puis des journées qui vont se clôturer pour 20h-21h.
Et le week-end.
Et le week-end, bien sûr, où ils sont sur les terrains pour pouvoir jouer en compétition.
On parle de la vie des jeunes, justement. On va peut-être continuer avec la vie du centre de formation. Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez, je pense.
Très, très content de toi. Franchement, ouais, c'est tout ce qu'on me disait dessus quand ils sortaient des grands gardiens, tout ça, que c'était un très bon centre de formation, que c'était très réputé. C'est vrai. Hein, c'est... Voilà, quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite vu que ça travaillait beaucoup. Après, il faut voir qu'on n'est pas non plus dans des très bonnes conditions parce qu'on n'a pas des terrains d'entraînement qui sont très bien. Mais c'est aussi notre force, c'est ça qui fait notre force. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va jouer sur des mauvais terrains. Ça veut dire que plus tard, quand on va jouer sur des bons terrains, bah, on va être prêt. Mais en tout cas, ouais, c'est un très bon centre de formation, je suis très content.
Vous avez reconnu, je crois, Paul Arnier dans le débrief 100% avec le jeune gardien normand, prêté en ce moment au Frambourin en Belgique. Ça, c'était en janvier 2024, juste après son titre de vice-champion du monde U17 avec l'équipe de France. Il évoque donc l'AKV, centre vieillissant. On reparlera des pelouses dans un instant, mais pour le moment, on le rappelle que des travaux sont en cours pour les bâtiments. 4 millions d'euros d'investissement, dont 25% financés par le HAC. L'idée, c'est d'en faire un centre de formation du 21e siècle, j'allais dire, ce centre à vrai.
Bah déjà, il fallait qu'on se remette aux normes, parce qu'on était sous le risque de se prendre une sanction par la fédération. Donc, il fallait rapidement donc mettre aux normes cette structure, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, là où on doit sincèrement et fortement progresser, en tout cas, c'est sur l'état des terrains. Donc, on aura une structure flambant neuve qui normalement, j'espère, ouvrira les portes au mois de juillet. Et puis, continuer dans cette dynamique, nous permettre aussi d'avoir des terrains qui soient d'excellente qualité, parce que c'est quand même notre outil de travail.
Je reviens sur les bâtiments. Qu'est-ce qui manquait? Parce que, alors, certains jeunes partageaient leur chambre. Est-ce que ce sera encore le cas ou pas? Enfin, voilà, c'était un internat avec vue sur les terrains.
Oui, ça va être le cas. Il faudrait simplement qu'on se mette aux normes en termes de sécurité par rapport à la réglementation liée à tout ce qui est aux normes de bâtiment. Donc, il fallait simplement que la structure prenne un bon coup de fraîcheur pour pouvoir répondre à la réglementation en termes d'hygiène et de sécurité.
Le bâtiment n'avait pas changé depuis qu'Anto était pensionnaire du
pas changé du tout.
C'est bien, moi, vous n'avez pas été dépaysé quand vous êtes revenu. Vous avez retrouvé vos repères facilement.
Les mêmes repères.
C'est aussi un enjeu de concurrence, clairement, avec d'autres centres. Je parlais de l'OL ou du PSG tout à l'heure, et les autres, hein, parce que voilà, mais vous aviez été classé en 2021, je crois, deuxième meilleur centre de France. Ouais. C'est aussi ça que les parents regardent ?
Il y a ça, et puis je pense que, alors, on va pas non plus se mettre, parce que quand on va, nous, à chaque fois à Paris, ou même dans d'autres structures, on a de belles structures, et on aurait pu les envier. Mais au Havre, il y a quand même une qualité de formation, et je pense que l'environnement joue pour beaucoup. On parle de valeurs, mais je pense que l'histoire de la ville, inconsciemment, ça engendre un certain nombre de choses, et ça permet à tous ces garçons qui sont sortis de décupler des valeurs liées à l'effort, à l'abnégation, la notion de solidarité. C'est pas parce qu'on a des fois les meilleures infrastructures qu'on arrive tout le temps à sortir des joueurs. Et les parents regardent surtout beaucoup l'environnement qui encadre. Est-ce qu'on est capable d'accompagner les gamins dans un climat de bienveillance ? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la force comme une structure comme le Havre.
La pelouse, c'est compliqué, c'est...
Ouais, c'est très compliqué. Je vous avoue que... Mais bon... On développe, on va dire, d'autres qualités, des qualités d'anticipation, des qualités de concentration, mais c'est vrai que très vite, on devra faire en sorte d'améliorer en tout cas l'état de nos pelouses parce que ça devient un vrai handicap.
Faut en faire une force, comme dit Paul Arnier.
Ouais, mais ça devient un vrai handicap, donc il faudra vraiment trouver des consensus.
Justement là-dessus, voilà, bon, ces travaux concernent surtout le bâtiment, mais est-ce que dans la réflexion du club, il y a des travaux qui vont intervenir sur ces terrains? Parce que voilà, on sait que il y a pas beaucoup de matchs qui se disputent sur la KV depuis maintenant plusieurs années. On se doute que ça va être quand même une priorité pour le club d'Orient de réaménager ces terrains et de les rendre un peu plus praticables.
Bah, vous savez bien que tout dépend du nerf de la guerre. Parce que la direction sportive, elle souhaite, elle le veut fortement, la nouvelle présidence aussi. Mmh. Que ce soit de la SASP ou de l'ASSO, tout le monde converge vers cette intention de sortir des terrains qui soient de meilleure qualité. Aujourd'hui, on est confronté à une situation économique qui est compliquée. Donc voilà, il faut être force de proposition, il faut réfléchir à cet enjeu de mutualisation, mais aussi il faut que tous les acteurs institutionnels surtout, et puis aussi économiques, nous accompagnent pour que ça soit une réflexion collective.
Ah, parce qu'il faut rappeler que un terrain de foot, ça coûte extrêmement cher. Là, aujourd'hui, on est autour d'un terrain hybride, c'est pas loin d'autour du million d'euros. Hein,
c'est ça,
on
va c'est pas exactement se mentir. Ça. Donc,
un club de foot comme le HAC, même pour le centre de formation, on parle, allez, j'allais dire minimum trois terrains. Enfin, je suis peut-être même en dessous de la réalité. Donc, forcément, ça prend des proportions importantes. Et il y a les faire ou les refaire et les entretenir. Ce qui coûte, je vois qu'Anthony acquiesce,
ouais.
Qui est bien connu pour avoir joué sur des galettes à l'époque au Havre, à Liverpool et dans d'autres clubs. Et ça coûte aussi extrêmement cher. Et c'est comme tout, c'est un métier avec un savoir-faire de la compétence que tout le monde ne peut pas avoir. Hein. C'est normal. Et qu'il y a des gens maintenant spécialisés là-dedans, dans des entreprises spécialisées, mais que ça coûte aussi et que c'est devenu maintenant un poste de dépense très important pour les clubs.
Oui, tout à fait. Et puis c'est une vraie réflexion qui doit avoir lieu de manière collective entre nous, la structure, les institutions, pour qu'on puisse voir quels sont les leviers qui peuvent être mis en œuvre pour nous permettre en tout cas d'avoir des meilleures conditions de travail. Parce que notre objectif, c'est quand même de sortir des joueurs de haut niveau qui permettront ensuite à notre équipe première d'être beaucoup plus forte. Et puis après, on sait très bien qu'on est dans des enjeux économiques.
À quel point pour vous c'est handicapant justement l'état de ces terrains en termes de pour la formation des jeunes pour voilà, savoir un peu à quel point ça peut être
ça joue sur tous les paramètres, sur l'aspect technique déjà, sur quand vous maîtrisez un ballon sur un terrain où le ballon roule sans problème, ben les prises d'infos ne sont pas les mêmes, on est dans des anticipations différentes. Là, les garçons sont obligés de s'adapter à des rebonds qui peuvent varier les trajectoires des ballons, donc c'est une anticipation permanente en tout cas dans le développement du gamin. Donc au niveau tout ce qui est prise d'information, ça impacte, tout ce qui est automatisation des gestes, ça impacte. Et bien sûr, ça a autant d'effets. C'est comme si vous roulez une voiture avec un pneu qui est dégonflé. Et donc, vous êtes dans l'anticipation de si le pneu, il va pas crever ou autre.
Puis il y a le risque aussi de, de blessure, même si on peut bien sûr se blesser sur une galette, hein, il y a pas de souci, mais bon, pour tous ceux qui ont joué à un niveau bien inférieur à ceux d'Anthony et Jair, mais on va dire au niveau district, on sait tous la fameuse entorse de la cheville sur
ça
le terrain.
Vécu, ça sent vécu,
sur le terrain, oui, c'est possible effectivement. Je n'ai pas joué que sur des galettes, moi. Mais effectivement, il y a quand même ce facteur-là sur des jeunes joueurs.
C'est très important, c'est même fortement impactant. Parce que aujourd'hui, on est dans une situation où on varie beaucoup nos surfaces de jeu entre le terrain synthétique et la pelouse. On est dans une région où il pleut relativement beaucoup, donc
c'est pas vrai.
C'est pareil à Liverpool. C'est pas vrai.
D'ailleurs, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible.
Moi, je suis originaire d'Amérique du Sud, en Guyane. Je veux dire que des fois, je me retrouve dans des climats qui sont un peu similaires aux miens.
Donc, c'est pour vous, c'est pour vous sentir comme à la maison. C'est pour ça.
Mais en tout cas, voilà. Donc ça a beaucoup d'impact. Que ce soit, en tout cas, dans le développement des gamins sur l'aspect technique, et puis, bien sûr, au niveau de leur capital santé.
Juste un petit mot, je termine juste sur ce côté pelouse. Vous avez fait référence, le synthétique, Anthony. Mm-hmm. Moi, de ma petite expérience d'avoir côtoyé des joueurs pros, en général, quand on dit synthétique, je dirais pas qu'il y a des boutons qui poussent sur le visage des joueurs pros, mais pas loin. J'aimerais un peu avoir l'avis. Aujourd'hui, ancien joueur pro et éducateur.
Bah, j'ai deux avis. En fait, moi, j'ai arrêté le foot à cause de ça. J'ai arrêté à cause du synthé, parce que j'avais fini à Annecy et on s'entraînait que sur synthétique. Et j'avais des blessures à répétition parce que j'étais pas habitué. Et pour moi, c'est pas le foot, le synthétique. Mais aujourd'hui, faire le choix entre le synthétique et l'herbe, je choisis le synthétique pour la beauté du foot. Et voilà, bah, sur l'herbe aujourd'hui, bah, ça devient compliqué. Nous on n'arrive pas à produire du beau jeu. On se met en difficulté même quand on joue sur l'herbe, nous, maintenant. Donc voilà, j'ai deux avis.
Parce que
quoi.
C'est un autre football du coup,
bah,
sur le gazon naturel.
Ouais, c'est un autre foot. C'est un autre foot et sur synthétique, bah, on peut plus développer, il y a moins de rebonds. Mais quand même, le foot, c'est l'herbe. Donc je suis partagé.
Mais, faut faire un mixte alors du coup alors.
Faut faire un mix, faire un hybride.
L'appel est lancé.
Voilà.
Vous parliez tout à l'heure, j'allais dire, de cet objectif qui reste de faire monter les gars en équipe première. Je sais qu'il y a quelques années, du temps de la montée en Ligue 1, c'était 48% de l'effectif de l'équipe première qui venait du centre de formation, ce qui était considérable. Est-ce que vous avez le taux aujourd'hui? Et voilà, évidemment, ça reste l'objectif principal.
Oui, c'est l'objectif principal, parce qu'on le sait très bien que ça, c'est quelque chose d'historique. C'est la vente de ces garçons qui sont formés sur la structure qui permet ensuite, en tout cas, à l'économie de la SASP et puis même du centre de formation de fonctionner. Donc on se doit aujourd'hui, ça doit être un objectif prioritaire de continuer à être dans cette dynamique, de sortir des garçons. Alors, sur cette année où on monte en Ligue 1, et d'ailleurs cette année où j'avais la réserve, on en a sorti, il y a 4, voire 5 garçons qui signent pro. La génération de Steven Goura, mais déjà l'équipe première, elle vivait avec des garçons comme Yacine Keshta, Josué Casimir, qui sont issus aussi de la KV. Et ça doit faire partie, en tout cas, de notre volonté, de notre dynamique, de garder cette qualité, en tout cas, de formation.
Même si le palier, là, on faisait référence en Ligue 2, là, forcément, aujourd'hui, le club est en Ligue 1 pour la deuxième saison. Le palier est un peu plus haut. Anthony, vous avez beaucoup joué en première division. Et donc, du coup, on peut avoir des étapes intermédiaires. Le fameux prêt qu'on peut avoir en national. Hein, je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs garçons. Simon et Bonog, Mokran, Bentoumi.
Alio,
qui a Nancy aussi. Merci. Vous avez mine de rien pas mal de garçons qui aujourd'hui sont dans cette étape intermédiaire de découvrir le monde pro à travers un prêt. C'est quand même un peu plus compliqué quand son équipe première est en Ligue 1 de sauter directement de l'étape formation réserve, peu importe son niveau, on y reviendra après, à l'étape équipe première. La Ligue 2, ça permet quand même de mieux appréhender ce monde professionnel.
Déjà, c'est clair qu'il y a une différence d'intensité. Aujourd'hui, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, on le ressent sur les intensités athlétiques en termes d'impact, et puis même sur l'aspect technique. Il y a un vrai palier, et puis vous l'avez dit, on en parlerait tout à l'heure, le fait aussi que l'équipe réserve soit descendue en régional 1, donc ça aussi, ça nous met en difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle qu'il faut vite retrouver ce niveau national 3, parce que le niveau national aujourd'hui, c'est un bon laboratoire pour former des jeunes. On le voit avec les réformes des compétitions, que ça se nivelle, qu'il y a de plus en plus d'exigences sur ce type de championnat. À l'époque, il y a 5-6 ans, un gamin qui sortait de formation pouvait réussir rapidement, en tout cas sur du niveau national 2, ce qui est moins vrai aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on est devant ce facteur limitant où il faut vite retrouver, en tout cas pour la progression des gamins sur le niveau national pour l'équipe réserve.
C'est une priorité du coup de retrouver ce niveau national 3 ?
C'est une priorité parce qu'on le sait très bien que notre process de formation, avec tout le respect qu'on a pour la régionale 1, mais on n'est pas sur les mêmes exigences, c'est pas le même niveau de compétition.
On ne trouve pas les mêmes oppositions non plus.
Voilà, c'est pas les mêmes scénarios de match. Donc pour qu'on soit cohérent dans notre process de formation. Moi, je pense que pour qu'on puisse sortir rapidement des gamins, il faut le niveau national 2, il est bon, mais il faut trouver un bon mix avec des garçons qui viendraient encadrer peut-être nos jeunes, parce qu'on joue avec des effectifs très jeunes. Trois ou quatre garçons beaucoup plus matures, comme le font certains clubs pro, qui permettraient en tout cas à ces garçons de s'aguerrir.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, j'ai pas fait les stats avant, mais en national 2, au niveau des réserves pro,
il n'y en a plus.
Ah, il y en a quasiment plus. Hein. Non, il y en a très peu, voire. Ouais.
Il n'y en a plus. National 2, je crois.
C'est possible, ouais, j'ai pas fait les stats avant de, mais en tout cas, il y en avait plus beaucoup. Je sais que l'année dernière, ça avait été une saignée avec beaucoup de descentes, justement.
Qui était à Bordeaux?
Dans la réforme. Ah, ouais. Monsieur Le Tellec est taquin, en ce genre d'enregistrement. Mais oui, pas. Un bon compromis, ça reste aujourd'hui le National 3, surtout avec les réformes du championnat, des niveaux qui se sont
resserrés. Et puis vous avez de plus en plus sur le niveau National 2 des garçons qui sont pratiquement des professionnels.
Qui le sont, qui n'ont pas de contrat professionnel, mais qui vivent du football.
Voilà, contrat fédéral, ça s'entraîne à pratiquement entre 10 et 12 heures par semaine. Allez,
en journée.
8 et 10 heures par semaine, en journée. Donc, et on le voit sur la Coupe de France. Sur certaines confrontations, il y a plus trop de différence, à part les grosses écuries. Mais en tout cas, avec un peu plus de motivation haute, il y a beaucoup de surprises.
Ça, c'est pour la réserve. Un petit mot des U19 nationaux qui sont en position de relégable actuellement, les U19 de Cédric Lécluse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette formation? Il faut s'accrocher.
Il faut s'accrocher. Ça a toujours été aussi dans notre ADN, parce que dans notre politique de formation, on a toujours joué très jeune. On joue par exemple en réserve avec des garçons qui sont des 2008. Et puis derrière, ça a un effet qui va gangréner, puisque quand vous attirez des garçons très jeunes sur l'équipe réserve, en U19 aussi, vous allez jouer avec des garçons aussi jeunes. Donc, c'est vrai qu'on est en difficulté, mais le championnat, il reste quand même 5 matchs, avec un écart de points entre la 4e place et le premier relégable qui a à peine 2-3 points. On voit que la semaine dernière, il y a eu une journée qui a déjà eu lieu, et donc des équipes même comme Lens, qui n'ont qu'un point d'avance sur nous, et aussi avec un match supplémentaire. Donc voilà, on sait qu'on a 5 journées, on sait qu'il faudra aller chercher minimum 2 à 3 victoires, mais vous inquiétez pas, on va aller chercher ce maintien.
On fait juste un petit point, je reviens en arrière sur le championnat de R1, donc vous êtes en tête quand même de votre poule, mais les positions se sont resserrées ce week-end. Il y a eu une défaite contre Deauville-Trouville, qui est l'un de vos concurrents pour justement briguer cette première place. Il y a Bayeux aussi qui est dans la course, et la particularité, c'est qu'il faut finir premier ne suffit pas pour monter, vu qu'il n'y a qu'un seul billet en Normandie pour retrouver l'échelon National 3 et qu'il y a 2 poules. Du coup, il y aura un barrage d'accession contre le premier de la poule B.
Qu'on connaît déjà.
Qui
serait probablement co-créé au
Et qui sera pas très très, voilà. C'est bien, c'est que ça se déroulera sur terrain neutre, parce que ce sera à Saint-Lô, le match a déjà été fixé. Alors c'est fixé bien avant que de savoir qui sera champion du groupe B et du groupe A. Mais il y a des chances d'avoir un derby 100% à vrai pour cette finale d'accession. Anthony, qu'est-ce que ça vous inspire si ça se confirme? Alors, plus de votre côté, parce que du leur, visiblement, ils sont plutôt sereins. Ils y seront le 31 mai, 1er juin à Saint-Lô.
Moi, ça me fait rire, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis à Cocry. Beaucoup, beaucoup d'amis qui me parlent de ça depuis moins 3-4 mois.
D'accord, de se retrouver du coup.
Ouais. Mais je leur dis à chaque fois, vous inquiétez pas, on sait ce que vous allez faire. Vous savez, on sait très bien... c'est une petite dédicace pour eux. Je sais, parce qu'il y a beaucoup d'anciens du HAC à Cocry. Et ils veulent prendre leur revanche, quoi, par rapport à leur passé. Et je peux le concevoir. Mais voilà, ils vont ramener peut-être 4-5 quarts à Saint-Lô. Ça va pas nous intimider.
Bon, si ça se confirme, en tout cas, ça promet une belle affiche. Oui, pour terminer cette saison, ça pourrait être sympa.
Mais déjà, faut qu'on finisse premier, déjà.
C'est ce que j'allais dire, parce que la lutte est quand même assez...
Déjà, non, c'est pas fini, parce que déjà, Deauville, ils sont revenus à un point derrière nous.
Bayeux aussi, à un point. Bayeux.
Gonfreville n'est pas très loin derrière
nous. Gonfreville n'est pas très très loin, donc à nous de plus faire un sans faute, parce qu'on est quand même en tête avec un point d'avance. Et voilà, il nous reste 5 matchs, je crois, et on va les aborder pour tous les gagner.
On parlait tout à l'heure de la génération qui est montée en Ligue 1 il y a quelques temps. Il y a aussi celle qui est en équipe de France, la U19, U18, d'ailleurs en ce moment même, puisqu'on est en pleine trêve internationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces garçons? On a parlé de Paul Hernier tout à l'heure, il y a Ismaël Bouneb, il y en a aussi en U18 qui arrive derrière, Enzo Cana, Bigic, Moustapha Sissoko, qui ont été aussi sélectionnés cette fois-ci. Il y a encore de l'avenir au HAC?
Oui, bien sûr. Et puis, on arrive chaque année, en tout cas, à entretenir, à faire en sorte que le vivier de l'équipe de France, on puisse avoir des garçons qui soient retenus. Il y a du potentiel. Et on le voit encore sur les sorties des garçons, là, qui sont en train de jouer. Parce que quand on voit un garçon comme Enzo Canabi, qui a fortement progressé, et puis qui a eu une évolution qui a été progressive, mais où on n'est pas non plus allé trop vite, parce que ça peut être aussi le danger. Mais ça confirme en tout cas que on n'a rien à envier à quiconque et que on travaille quand même correctement, même s'il y a aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer, parce que on doit progresser aussi sur un certain nombre de paramètres, mais aussi il faut quand même valoriser qu'on a une qualité de formation qui est bonne aussi.
Ça compte aussi ça dans le top entre guillemets des centres, hein, le nombre de sélections en équipe de France A et en équipe de France jeune, ça fait partie des stats que la Fédé regarde, voilà.
Ouais, tout à fait. Et puis ça a toujours été alors on va revenir encore sur ce fameux mot d'ADN, mais dans l'histoire du club de faire en sorte que les équipes de France jeunes et puis l'équipe de France A d'avoir toujours des garçons qui soient issus du centre de formation du HAC.
Vous les retrouvez comment quand ils reviennent de sélection? Est-ce que je vois Anthony sourire? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils sont plus fatigués aussi? Parce que forcément, ça s'inscrit en plus dans l'emploi du temps.
Ça dépend des joueurs. Là, par exemple, je vais prendre le cas de Enzo Canabic. C'était sa première sélection. Donc voilà, ça valorise tout le travail qu'il a pu faire depuis le début de saison. Et je pense qu'il va revenir dans de bonnes dispositions. Après, il y en a qui, ça fait un petit moment qu'ils sont en sélection. Donc ça fait moins mal à la tête. Il y en a parfois, ben voilà, ça, c'est humain, on peut changer un tout petit peu.
On ne prend pas la grosse tête,
mais on peut changer un petit peu par rapport à l'image voilà, qu'on transmet, voilà, par rapport à l'école. Moi, parce que moi, je l'ai vécu par rapport à l'école, par rapport aux joueurs avec qui je jouais. Mais d'être en sélection, ça, c'est une grande bouffée d'oxygène.
Et bon, pour ceux qui prennent la grosse tête, une bonne séance à 8h du matin sur un terrain un peu hasard de la cave verte, ça vous remet vite
direct,
sur terre.
Direct.
Vous dites, je suis pas encore rendu, c'est bon, j'ai encore un peu de temps devant moi.
C'est clair. Et ben voilà, on a déjà évoqué, comme on le fait d'habitude, on fait le tour de la formation. On n'a pas parlé des U17 qui ont gagné ce week-end en toute fin de match 2-1 face au FC Mantois. Les Havrais qui restent 4e à 3 points des 2e, le PSG, et qui espèrent donc encore une qualification pour la phase finale. Et puis les féminines de Maxime Di Liberto, c'était une défaite ce week-end 2-0 face à Dijon. Le HAC qui est 8e avec 18 points, donc dans une situation quand même beaucoup plus confortable qu'il y a quelques mois.
Oui, le maintien est quasiment acté, je pense, très honnêtement, pour les féminines. Puis je crois qu'il y a un match qui arrive face à Strasbourg qui pourrait carrément valider le maintien. Donc bon, on est plutôt confiant en tout cas sur l'issue favorable de la saison.
J'allais oublier de parler des pros.
Ouais, accessoirement.
Quand même.
Des garçons.
Accessoirement, il y a un petit match important qui attend le HAC dimanche. C'est pas que si le maintien n'est pas en jeu, mais bon.
Voilà, c'est toujours eux dont on parle en premier, donc là.
C'est
voilà,
ça.
On
inverse un peu les rôles.
Ils vont terminer. Ouais, il y a donc ce match, le HAC Nantes de dimanche, forcément important dans l'optique du maintien, parce que là, bon, il y a la particularité qu'aujourd'hui, techniquement, le Havre est en position de barragiste, mais il y a ce fameux match Montpellier-Saint-Etienne qui a été arrêté avant la trêve internationale. Saint-Etienne menait 2-0. Il restait à peu près 25 minutes de jeu, je crois, dans le temps réglementaire. Alors bon, pour l'instant, c'est entre les mains des instances. On voit mal comment Saint-Etienne ne pourrait pas
récupérer
les 3 points qu'ils ont gagnés sportivement, d'ailleurs, sur le terrain. Donc, Anthony, on a envie de dire que victoire impérative, j'aime pas trop ce mot-là dans le football, tant qu'il n'est pas vrai à 100%, mais fortement nécessaire pour le HAC ce week-end contre Nantes.
Fortement nécessaire, mais pas impérative encore. Même avec un nul, on serait encore...
Dans la course.
Mais voilà, on a quand même une équipe qui est un peu surprenante. Voilà, on a été gagné à Lens, on a été gagné à Lille.
Déroutante, je dirais même.
Ouais, donc il reste des matchs. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Et je pense pas il faut pas se focaliser sur ce match-là à tout prix.
D'accord.
Comme on a pu le faire dernièrement contre Saint-Etienne. Donc il y a encore des points à prendre. Et voilà, on est une équipe très très surprenante. Et je tiens à le dire.
Elle vous fait passer quelques, entre guillemets, quelques sueurs froides. Alors c'est souvent le dimanche du coup. C'est vrai que c'est pas forcément évident de suivre d'ailleurs les matchs en tant qu'éducateur quand on a la formation, parce que les matchs sont souvent aussi le dimanche pour en tout cas pour les 17 et les 19. Mais oui, quand vous, j'imagine que vous suivez tous les deux les matchs de l'équipe première, ça, il y a quelques gouttes de transpiration des fois sur le front en suivant les performances d'Akmen.
Bien sûr, parce que voilà, on appartient à un club et on ne voudrait pas que l'équipe descende en Ligue 2. Hein, ça impacterait beaucoup de choses au club. Nous, peut-être les premiers derrière, en formation. Donc, non, on est à fond derrière Didier et ses joueurs, et Mathieu Bonnemer. Et on espère ce maintien, parce qu'on en a besoin.
Vous parlez de Didier, qui a la particularité d'être un ancien joueur pro, un ancien joueur formé à la Cave Verte. Vous êtes un jeune éducateur. Didier, il a un peu sauté les étapes. Il a visiblement été précoce en tant que coach, même s'il a coaché aussi la réserve à Nice à plusieurs reprises. Est-ce qu'une, entre guillemets, une carrière à la Didier Digard, ça pourrait intéresser Anthony Le Tallec, coach, de se retrouver sur un banc d'une équipe professionnelle d'ici quelques années?
Pourquoi pas? Je dis pas non. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais en tout cas, son parcours, ben, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple pour nous tous. Voilà, j'étais en formation avec Didier ici.
D'accord.
Et voilà, c'est un bel exemple. Après, aujourd'hui, moi, je me fixe pas encore d'objectif par rapport à ça. Je prends mon temps, je passe les diplômes tranquillement et on verra bien ce qui est fait de mon avenir.
Il a changé. C'est ce que j'ai dit. Il a changé le Anthony Le Tallec. Parce que je te laisse enchaîner.
Ouais, parce qu'il y avait une déclaration de vous il y a quelque temps où vous disiez voilà quand j'étais joueur je me disais que jamais je ne serais coach. Ça a changé du coup depuis.
Ouais, j'allais en parler au début mais je dis non, je vais pas le dire.
Mais, on l'a retrouvé Anthony.
Mais c'est vrai que quand j'étais joueur je me disais jamais de la vie je serais coach. Jamais de la vie parce que j'avais une relation particulière avec mes coachs et voilà je me voyais pas là dedans. Mais par contre, après, quand j'ai terminé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit que peut-être la meilleure solution, c'était de rester sur le terrain, passer mes diplômes tranquillement en tant qu'adjoint, et après de voir. Mais en tout cas, moi, je kiffe d'être sur le terrain et d'être avec les joueurs, et particulièrement d'être avec les attaquants.
Il y a eu un déclic vraiment où vous vous êtes dit, bon voilà, ça pourrait m'intéresser justement, peut-être au contact d'un autre entraîneur, ou je sais pas s'il y a eu un moment dans votre parcours,
c'est une inspiration aussi. Quand j'ai arrêté à Annecy, j'étais avec un coach voilà, qui m'a fait découvrir le métier. C'était Johan Roubaud, qui est au Maroc aujourd'hui. Et voilà, peut-être que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis là. Peut-être que j'aurais arrêté tout de suite. Mais là aujourd'hui, voilà, je passe les étapes, je rencontre différents coachs avec qui je travaille. J'ai fait Johan Robot, j'ai fait François, aujourd'hui je suis avec Jair. Voilà, c'est des coachs différents. J'apprends auprès d'eux mais en tout cas, grâce à eux, je me sens de plus en plus prêt. Peut-être, pourquoi pas un jour prendre une équipe.
D'accord. Et Jair, vous, est-ce que vous savez de quoi votre avenir sera fait? On rappelle que vous êtes en fin de contrat au mois de juin. Ça fait la troisième saison que vous êtes, vous êtes au HAC. Donc c'est vrai que maintenant, avec la responsabilité de la direction du centre, est-ce qu'on sait de quoi demain sera fait vous concernant ou pas encore?
Non, pas encore. Après, je suis pas non plus inquiet. Hein.
Ouais, c'est le propre un peu de ces métiers-là quand même.
Non, franchement, je suis quelqu'un de devoir. Je suis quelqu'un qui, quand on a une mission, qui fait les choses à fond avec beaucoup d'engagement et puis après quelqu'un aussi d'honnête et de sincère, donc on est dans une relation de confiance avec la direction sportive mais aussi la nouvelle présidence qui est en place maintenant depuis 4 mois, donc ils m'ont demandé d'assurer une mission avec des objectifs précis. On va se retrouver tranquillement parce que je pense qu'il faut faire les choses aussi par priorité. La priorité pour la direction sportive, c'est de faire réussir à assurer au moins ce maintien sur la Ligue 1, puis en fonction des situations, parce qu'il y a différents scénarios qui peuvent arriver, on prendra le temps de s'asseoir et de discuter très rapidement de l'avenir de Jair Karam. Mais pour l'instant, il faut rester confiant.
Je précise, hein, quand vous faites référence au changement de président, c'est au niveau de l'association.
Hein. L'association.
Je rassure, Jean-Michel Roussier est toujours là.
Maintenant, il y a un duo de coprésidents avec Antoine Tinel et François Philippe qui ont pris la succession de Jean-Michel Kosiszewski depuis quelques semaines, quelques mois, je crois.
Quelques mois, ouais. Voilà, exactement ça.
Parfait. Eh ben effectivement, j'allais le préciser, mais Luc, vous m'avez devancé, donc c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce débrief spécial formation avec donc Jair Karam et Anthony Le Talec. Débrief à écouter sur tendanceouest.com, Deezer, Spotify et sur le site de nos partenaires, Luc Gallet du Courrier Cauchois. Merci. Qu'est-ce qu'on peut lire bientôt là dans le Courrier Cauchois? J'ai pas révisé.
Pour tout vous dire, moi non plus encore.
Ça sera une surprise pour les lecteurs.
Non. Il y a une double page notamment sur le rallye du Pays de Caux qui a animé Lillebonne le week-end dernier notamment.
Eh bah, ben parfait. Ce sera donc en kiosque très prochainement.
Vendredi.
Puisque c'était ce week-end ce rallye du Pays de Caux. Et puis Mathieu Billot, tout normal. Footnormand.fr. Qu'est-ce qu'on y lit en ce moment?
Eh ben on est sur la jeunesse justement. Alors pas avec la jeunesse à Brest, mais la jeunesse avranchinaise, parce que l'US Avranche est le dernier représentant normand en Grand Bardella, quart de finale contre la JOCR ce week-end. Donc on fait un focus tout au long de la semaine avant ce match.
Et un inside, j'imagine.
Exactement. On va aller dans Lyon ce week-end pour voir ça.
Eh ben merci à tous. Et puis on rappelle un prochain match des Ciel et Marines dimanche 17h15 au Stade Océane face au FC Nantes. Fin de partie et à dans 15 jours pour un nouveau débrief.